tire au cas où. Mais...
Non, 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 on va le faire avec celui-là. Ah, par contre, je ne vous ai pas demandé. Est-ce que vous voulez qu'on le lance maintenant, le zoom et qui. Non, d'accord.
En fait, il dort.
Ouais, d'accord.
Il est dans quel bout, en fait.
Bon, tardé.
Ah oui, il n'y a pas le choix.
Vas-y, je vais se faire. Oui, en haut, c'est mieux ça. Ouais. Ah, c'est vrai. On peut commencer quand on veut, là ? Ok. Ok, donc bonjour, donc bienvenue dans ce deuxième cours. Donc nous sommes toujours dans la première partie de cette série de cours dédiée aux bases indispensables avant de définir les algorithmes. Et donc nous sommes au deuxième cours où nous allons travailler un petit peu plus sur les propriétés des corrélations quantiques, voir quelques paradoxes et comment les utiliser en communication et en cryptographie. Et nous aurons donc en deuxième partie un séminaire de Thomas Vidic, un expert de l'utilisation des corrélations quantiques pour notamment la certification. Alors la base de ce cours, hein, c'est vraiment l'utilisation des paires de bits quantiques enchevêtrés qui forme une sorte de paradoxe, quelque chose qu'on avait du mal à expliquer en 1935. Et pourquoi c'est un paradoxe ? Parce qu'il semblerait que l'observation d'une particule enchevêtrée à une autre à une très 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 grande distance semble transmettre de l'information instantanément, ce qui serait un paradoxe. Et donc, dans les années 64, Bell, puis Closer, Horn, Shimoni et Holt ont proposé une expérience. Donc cette expérience ne pouvait pas être réalisée tout de suite, une expérience qui permettait de distinguer entre deux théories. Donc la première, c'est la théorie de la localité, complétée avec des variables cachées, donc on expliquera ce que c'est. Et la deuxième, c'est la non-localité qui semble être propre à la physique quantique, et ce que semblaient donc refuser Einstein, Podolsky et Rosen. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les années 80-82, donc un groupe à Orsay, dirigé par Alain Aspect, a réalisé cette expérience de façon suffisamment rigoureuse pour convaincre la communauté physique que finalement, c'était la théorie non locale de la physique quantique qu'il fallait retenir. Il a fallu quand même un petit peu plus d'années, donc dans les années 2015, toutes les hypothèses ont été retirées. Donc c'est une expérience qui est 100% rigoureuse, on pourrait dire, qui donc convainc définitivement que la physique quantique est non locale et n'a pas besoin d'être enrichie de variables cachées. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que d'abord, ces expériences ont été réalisées à l'aide de photons à très grande distance, puis après, avec des états d'atomes. Et donc, dans ce cours, nous allons utiliser finalement cette non-localité quantique pour définir des jeux et des protocoles cryptographiques. Alors, je dis c'est avancé, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on a vu la dernière fois, qui était la distribution de clés quantiques. Et aussi, on verra rapidement la certification, mais qui sera surtout développée dans le séminaire. Alors, je vais reprendre un peu du formalisme que nous avons utilisé la semaine dernière. Certains de ce formalisme, je vais le mathématiser un petit peu plus et donner quelques bases solides pour que nous puissions continuer après avec ce formalisme et puis aussi pour le justifier. Alors, ce que nous avons vu la dernière fois, c'est ce qu'était un bit quantique. Et donc, un bit quantique part d'abord de deux états de base qui existent. Donc, pour le bit, c'est les états classiques, 0 et 1. Et la physique quantique nous dit qu'il est possible de faire une superposition de ces deux états. Et une superposition est simplement un vecteur à deux coordonnées, donc je note en général alpha, bêta, qui sont les amplitudes, une sorte de poids, combien on a de 0, combien on a de 1. Ces coordonnées doivent décrire un cercle, c'est-à-dire que la somme de leur module au carré doit faire 1, parce qu'effectivement, ces coordonnées peuvent être complexes. Et la notation que nous allons utiliser, c'est la notation vectorielle. Donc, nous avons deux coordonnées, nous sommes dans un espace de dimension 2, et les vecteurs de base sont effectivement l'état, le bit égal 0, et l'état, le bit est égal à 1, et on utilise cette notation ket pour noter le vecteur qui correspond. Et les coordonnées, donc alpha, bêta, peuvent aussi s'exprimer en termes de produit scalaire. Donc ici, ce qu'on a, c'est un produit scalaire entre le qubit, ici j'ai noté psi, qui est en superposition, et le vecteur associé à l'état 0. Et l'amplitude sur 1 s'exprime aussi comme un produit scalaire. Cette notation est très agréable et on va l'utiliser plusieurs fois. Alors, quand on mesure un bit quantique, il devient probabiliste, nous l'avons vu, et donc il décide d'être 0 ou 1, et donc on voit 0 ou 1 avec une probabilité qui est donc le carré de l'amplitude. Et ce que je n'ai pas dit la dernière fois, c'est que devient le bit quantique après ? Eh bien, en fait, il est projeté sur un état qui est cohérent avec la mesure. Si on voit 0, ben, le bit quantique devient 0. Si on voit 1, il devient 1. Ça va être important pour la mesure partielle. On verra plus tard. Il est possible d'observer dans une autre base. Pourquoi observer uniquement dans la base de calcul 0, 1, donc le bit égale 0, bit égale 1 ? On pourrait tourner cette base. On a vu ça la dernière fois. Pour définir une autre base, eh bien, il nous faut simplement deux vecteurs orthogonaux de norme 1, psi 0 et psi 1. Et alors, ce qu'on va observer, eh bien, c'est encore une fois la valeur 0 ou 1 et l'état devient projeté sur le vecteur de base correspondant, celui que j'ai indexé par 0, celui que j'ai indexé par 1. Et la notation du produit scalaire permet de nous décrire simplement quelle est la probabilité d'observation, simplement la composante du qubit sur le vecteur de base associé, ça c'est l'amplitude, au carré. Bon, cette notation est très agréable. Alors bien sûr, on peut faire plus qu'un bit quantique, et donc de façon générale, lorsqu'on a un système classique qui peut prendre un certain nombre d'états possibles définis par un ensemble que je vais appeler S. Alors, qu'est-ce que c'est S ? S, ça peut être les deux bits possibles 0, 1. Ça peut être toute suite de n bits. Ça peut être aussi un entier entre 1 et n. Tout ce que vous voulez, ce dont vous pouvez avoir besoin. Et donc, la physique quantique nous dit que quand on a un tel système, il est possible d'avoir une superposition sur toutes les valeurs de l'ensemble S possible. Et qu'est-ce que c'est une superposition ? C'est encore un vecteur où on va à chaque fois mettre un poids sur chacun des états de cet ensemble S. Donc le nombre de coordonnées, c'est exactement le nombre d'états qu'il y a. Donc par exemple, si j'ai une séquence de n bits, il y en a 2 puissance n. Les coordonnées sont complexes. La superposition, je l'écris comme tout à l'heure. Donc cette somme dit que c'est une combinaison linéaire de tous les vecteurs associés à chacun des états. Donc pour chaque élément x correspondant à un état de S, j'ai une amplitude associée. La mesure se généralise. Quand je mesure un tel système, alors j'observe un certain état x et je deviens cet état x avec une probabilité qui est le carré du module de l'amplitude. Et encore une fois, je peux observer dans une autre base. Et ce qui est agréable avec la notation que j'ai définie, c'est que je prends ici n'importe quelle autre base, et bien je vais voir l'indice X avec une probabilité définie par ce produit scalaire. Bon, ça se généralise vraiment très bien, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Alors je l'étends un petit peu à tout ensemble possible, pas forcément une séquence de bits, parce que ça sera utile bien sûr. Et donc, ce qui est bien sûr possible, c'est de faire des transformations unitaires, c'est-à-dire des transformations qui préservent les superpositions, qui ne sont pas des mesures. Ces transformations sont, pour le cas du bit quantique, sont soit des rotations, soit des symétries. Et donc, elles sont linéaires, c'est-à-dire que donc, je représenterai schématiquement une telle transformation par ce diagramme. Et donc, ici, si un bit B part sur une superposition psi indexée par B, donc soit psi 0, psi 1, la linéarité nous dit que si je pars sur une superposition de 0 et de 1, alors le résultat est aussi une superposition des états possibles. On n'en aura pas forcément beaucoup besoin, mais il est intéressant de savoir que la notation matricielle est possible, puisque c'est une transformation linéaire. Et donc cette transformation est définie par une matrice 2-2, qu'on peut simplement le voir comme les étapes ψ0 et ψ1 que j'ai mis côte à côte dans ma matrice, ou encore l'ensemble des coordonnées de cette étape ψ0 et ψ1 dans ma base 0,1. Et donc une propriété du calcul quantique, c'est qu'une telle transformation est nécessairement inversible. Et comme la transformation est censée être unitaire, il y a une façon très simple de calculer l'inverse. Alors ça s'appelle la matrice auto-adjointe. Alors c'est un nom un peu barbare, mais il veut simplement dire que si j'échange les éléments qui ne sont pas sur la diagonale et que je prends la valeur conjuguée complexe de chaque entrée, je dois tomber sur la matrice inverse. Alors ceux qui ne connaissent pas cette notion, ce n'est pas très grave, je m'en servirai très peu, mais ceux qui la connaissent, ça permet de se raccrocher à quelque chose qu'on connaît. Dans le cas général, eh bien, il suffit de généraliser ceci. Chaque état de base x doit partir sur un état psi x. Et cette transformation doit être encore une transformation unitaire. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une généralisation simplement des rotations et de symétries en grande dimension. Et simplement, ici, on part d'une base de calcul. Donc ici, on doit arriver dans une autre base. Chacun de ces vecteurs doit être de norme 1 et ils doivent tous être 2 à 2 orthogonaux. Et la matrice associée, c'est simplement la généralisation de ce que j'ai dit avant. Donc c'est une matrice dont les vecteurs colonnes sont les vecteurs psi. Et ici, si on met les coordonnées, on obtient toute la matrice. Encore une fois, dans ce dont on utilisera, il n'y aura pas d'ambiguïté. On n'est pas forcément besoin d'être très à l'aise avec ces notations, mais les connaître peut être utile. Alors, ces rappels étant terminés, donc nous allons voir quel genre de corrélation quantique on peut réaliser, et des corrélations qu'il n'est pas capable de réaliser de façon classique. Alors, travaillons un petit peu sur cet état que j'appelle l'état EPR, qui était un des quatre états de Bell qu'on a vu la dernière fois. Alors, quel est cet état? Donc là, on voit qu'on a un système à 2 bits classiques sur lesquels on a fait une superposition. Une superposition de simplement 0, 0 et 1, 1. Et les amplitudes sont uniformes, elles sont 1 sur racine de 2. Donc on va se mettre dans un scénario similaire à celui de la dernière fois. On a deux joueurs, donc Alice et Bob, qui sont très 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 éloignés, mais qui partagent cet état. Alors qu'est-ce que ça veut dire partager cet état? Ça veut dire que Alice détient le premier bit et Bob le deuxième. Imaginons qu'ils fassent une mesure de leur bit. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils observent? Ils observent soit 0, 0, soit 1, 1, avec probabilité donc uniforme. Ils n'observeront jamais l'un 0, l'autre 1. Ce qui veut dire que si nous imaginons que le premier joueur faisait l'observation et voyait 0, instantanément, on a l'impression qu'il a communiqué au deuxième joueur le résultat de sa mesure. Donc c'est ça qui est une des raisons pour lesquelles la mécanique quantique semblait paradoxale, parce qu'il n'est pas possible de transmettre de l'information plus vite que la vitesse de la lumière. Donc on va voir pourquoi, au fond, ce n'est pas un paradoxe. Donc comment peut-on utiliser ce genre d'état? Et est-ce que ce genre d'état, au fond, est curieux, contradictoire? Alors, d'un point de vue classique, en tout cas d'un point de vue informatique, à quoi correspondrait cet état? Il correspondrait à une notion qui, au fond, est très utilisée en informatique, qui s'appelle l'aléa partagé. C'est un peu comme si Alice et Bob partageaient une pièce aléatoire, et quand ils effectuent un lancer de pièce, ils observent toujours la même chose, même s'ils sont à distance. Et donc, en fait, cet état est simplement décrit par une distribution probabiliste qui est que, conjointement, ils observent soit 0, 0 avec probabilité 1/2, soit 1, 1 avec probabilité 1/2. Donc, c'est un modèle. Est-ce que ce modèle suffit pour simuler l'enchevêtrement quantique, ou dit inversement, est-ce que l'enchevêtrement quantique, cet état EPR, est-il plus puissant que d'avoir des pièces corrélées entre deux joueurs? Alors, pour répondre à cette question, le jeu donc CHSH, alors d'abord Bell puis généralisé par CHSH, a été défini. Donc, c'est un jeu complètement combinatoire, un peu comme un jeu de casino. Donc, il y a deux joueurs qui ne communiquent pas. Alors, ils ont droit de partager un état quantique, ou ils ont droit de partager ces pièces aléatoires corrélées, mais ils ne peuvent pas communiquer une valeur qu'ils ont décidée. Alors, un peu la banque tire au sort X et Y, qui sont deux bits, et envoie au premier joueur Alice X et au deuxième joueur le bit Y. Alors, les deux joueurs ne peuvent plus communiquer, et ils doivent répondre à la banque, un autre bit, A pour Alice et B pour Bob. Et quand est-ce qu'ils gagnent? Alors là, il y a une notation un peu barbare, donc A ou exclusif B est égal X et Y. Alors que veut dire cette notation? Donc là, j'ai mis les tables logiques de ou exclusif et E. Le ou exclusif est simplement la parité, et le E, c'est le E logique, c'est-à-dire que seule possibilité d'avoir 1, c'est avoir 1 et 1. Alors, réécrivons-le de façon plus lisible. On gagne d'une unique façon si XY n'est pas 1, 1. Donc, par exemple, 0, 0, 0, 1 ou 1, 0. Il faut qu'Alice et Bob renvoient la même chose. Exactement. Mais lorsqu'ils reçoivent tous les deux 1, donc quand ils reçoivent globalement 1, 1, alors ils doivent répondre deux bits différents. Ça, c'est la contrainte. Donc, la plupart du temps, dans 3 cas sur 4, ils doivent rendre exactement la même chose. Et une fois sur 4, donc lorsqu'ils reçoivent 1, 1, ils doivent répondre quelque chose de différent. Et on voudrait savoir quelle est la probabilité maximale pour gagner. La probabilité maximale de gain, quelle est cette probabilité? Quelle est la meilleure stratégie dans le cas classique, le cas quantique? Donc, je vais expliquer ça. Alors, je parle de probabilité. La probabilité, c'est sur les entrées qu'ils reçoivent. La banque tire au sort XY, et donc je fais une probabilité sur les 4 configurations possibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Alors, le résultat, c'est que en fait, toute stratégie, même quantique, mais locale, et je vais le définir, y compris avec de l'aléa partagé, ne peut pas gagner avec probabilité plus que 3 quarts. Alors, on va démontrer ça de façon progressive, incrémentale, et chaque étape est censée être facile. Alors, nous allons prendre, même pas le cas quantique, on va prendre le cas déterministe pour commencer. C'est-à-dire aucun aléa autre que celui des questions X et Y. Donc, Alice, quand elle reçoit la valeur X, elle répond un bit A. Comme c'est déterministe, la réponse est déterminée uniquement par X. Donc, la réponse est une valeur A qui ne dépend que des X et que j'appelle AX. De même, pour Bob, sa réponse est une valeur B qui ne dépend que des Y. C'est un peu une fonction mathématique déterministe. Alors, est-ce que déjà on peut gagner avec probabilité 3 quarts? Parce qu'au fond, j'ai dit qu'on ne peut pas faire mieux que 3 quarts, mais est-ce qu'on peut faire probabilité 3 quarts? Il y a une stratégie très simple, c'est que peu importe l'entrée, toujours répondre 0. X égale Y est toujours égal. A est toujours égal à B est toujours égal à 0. Donc, avec mon formalisme, dire que A de 0 égale A de 1 égale B de 1 égale B de 0 égale 0, tout le temps. Alors, regardons ce qui se passe. Si X, Y ne sont pas tous les deux 1, 1, alors A égale B, vu qu'ils sont égaux à 0. Donc, ils gagnent. Et quand X, Y égale à 1, A n'est pas différent de B, donc ils perdent. Donc, ils perdent une fois sur 4. Donc, la probabilité de gain est bien 3 quarts. Alors, peut-on faire mieux de façon déterministe? Alors, une façon de le démontrer, c'est de montrer que si on faisait mieux, c'est qu'en fait, on gagnerait tout le temps. Parce qu'il n'y a que 4 choix possibles. Si on fait mieux que 3 quarts, c'est qu'on fait probabilité 1. Donc, on gagne tout le temps. Alors, supposons par l'absurde qu'on gagne tout le temps. Alors, lorsque l'entrée n'est pas un 1, il faut quoi ? Ben, il faut qu'on rende les mêmes valeurs. Alors, si on rend les mêmes valeurs, ça veut dire, par exemple, que B de 1 égale A de 0. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que là, on a une entrée 1, 0, donc les valeurs doivent être identiques. Quand on a une entrée 0, 0, les valeurs doivent être encore identiques, donc A de 0 égale B de 0. Et enfin, quand on a une entrée 0, 1, encore une fois, les valeurs sont identiques. Mais lorsque j'ai une entrée 1, 1, il me faut que B de 1 soit différent de 1 de 1. Ce qui est écrit ici est contradictoire avec ce qui est écrit là-haut. Donc, il y a une contradiction, ce n'était en fait pas possible. Donc, on ne peut pas gagner tout le temps, et comme il n'y a que 4 valeurs possibles, la probabilité de gain est au maximum 3 quarts. Donc, c'est très simple, mais bien sûr, on pourrait faire des stratégies beaucoup plus subtiles. Alors, la première stratégie qu'on considère maintenant, c'est lorsqu'on aurait cette fameuse variable partagée, donc cette fameuse aléa partagée, alors ce que les physiciens appellent variable cachée. Donc, par exemple, ces pièces pile ou face qui tomberaient du même côté pour Alice et Bob. Donc, je représente ça par une variable lambda, et je mets ici des deux côtés que c'est la même chose. Et je ne dis pas ce qu'est lambda. Lambda est tout ce qu'on veut. Ce n'est pas forcément une pièce pile ou face 50-50. Ça peut être un entier au hasard sur une distribution, sur un ensemble particulier, un réel, tout ce qu'on veut. Donc, seule chose que je sais, c'est que lambda est aléatoire. Et lorsque Alice s'en sert ou Bob s'en sert, ils ont la même valeur. On peut imaginer que le lambda est broadcasté par une onde radio, par exemple. Ce qui est important, c'est que ce lambda ne dépend pas de l'entrée XY, bien sûr. On peut modéliser, encore une fois, la réponse d'Alice et Bob. Même si cette réponse a l'air d'être maintenant probabiliste, en fait, elle est déterministe une fois que je connais l'entrée X et la variable probabiliste lambda. Donc, c'est une fonction qui dépend de X et lambda. Et la réponse de Bob est aussi une fonction qui dépend de y et lambda. Alors ça semble un petit peu peut-être complexe, abstrait. En fait, cette notation va nous permettre de très facilement nous ramener au cas d'avant. Quelle est la probabilité de gain de ce jeu ? Ben déjà, imaginons que lambda est fixé. Cette variable, ben, je vais appeler la probabilité de gain P indice lambda. Alors, quelle est la probabilité totale de gain du jeu ? Ben, maintenant, on a deux sources aléatoires. Notre P lambda, c'était la probabilité selon les XY qui arrivent au hasard, mais la probabilité totale de succès de mon jeu, P, c'est la moyenne de tous ces P lambda. C'est-à-dire lorsque lambda est aléatoire et les XY, les entrées du jeu. Et quand j'observe une telle moyenne, ce que je peux dire, c'est comme si j'avais une moyenne de score, c'est que ma probabilité de gain est au plus le maximum de ces probabilités P lambda à lambda fixé. Quand je fais une moyenne, je suis plus petit que le maximum. Maintenant, l'astuce, c'est de réaliser qu'une fois que nous avons fixé lambda, la stratégie est devenue déterministe. Donc, cette stratégie étant déterministe, je sais, d'après le transparent précédent, que le P lambda est au plus 3 quarts. Donc, la moyenne est elle-même au plus 3 quarts. Donc, vraiment, cette abstraction avec cette variable partagée, probabiliste, que je fixe, mais ensuite je laisse varier, nous permet de nous ramener au cas précédent. Et ce qui est au fond assez surprenant ici, c'est que nous avons montré que la meilleure stratégie probabiliste est en fait une stratégie déterministe. Alors maintenant, nous allons montrer le théorème final, qui est que si j'ai une stratégie quantique mais locale, P plus ces variables partagées aléatoires, je ne peux pas faire mieux. Et encore une fois, on va se ramener au cas précédent. Alors, pour l'instant, je ne mets pas de variables partagées, je ne mets que des stratégies quantiques locales. Alors, je n'ai pas vraiment défini ce qu'était une stratégie quantique locale, donc on va le faire là. Ça veut simplement dire que mes deux joueurs, Alice et Bob, sont vraiment complètement séparés. Ils ne partagent rien du tout. Rien. Ils reçoivent chacun un bit X, un bit Y. Ils ont le droit d'utiliser toutes les transformations quantiques qu'ils peuvent imaginer, uniquement de leur côté. Donc, transformation unitaire, état quantique. À la fin, ils renvoient un bit probabiliste qui est le résultat d'une mesure de tout ce système quantique. Nous avons vu qu'une mesure est en fait, au final, rien d'autre qu'une probabilité définie par le système quantique. Mais c'est une probabilité. Donc la réponse à la question X va être une variable aléatoire qui ne dépend que de X. Et la réponse à la question Y va aussi être une variable aléatoire qui ne dépend que de Y. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Au fond, on a enlevé le quantique. On indique que peu importe ce qu'on fait, le résultat est une variable probabiliste. Et donc je pose la question, est-ce que, au final, lorsque les résultats sont des variables probabilistes, est-ce qu'on peut faire mieux ? En fait, on peut se ramener au cas précédent. Il suffit que je définisse une variable partagée, probabiliste, qui me permet de simuler cette stratégie. Et dans cette variable partagée, je vais simplement définir une variable probabiliste qui a quatre registres. Et ces quatre registres sont simplement toutes les variables probabilistes que je peux générer. Donc dans cette variable probabiliste, je vais simplement mettre les réponses à la question 0, à la question 1, que ce soit pour Alice et Bob. Et je donne ça gratuitement à mes joueurs. Donc mes joueurs ayant accès à cette variable, ils peuvent répondre selon la probabilité qu'ils auraient calculée avec un calcul quantique. Donc je me suis ramené au cas précédent, c'est-à-dire déterministe avec un accès à une variable probabiliste. Donc, je ne peux pas faire mieux que 3 quarts. Alors, OK, maintenant, il faudrait que je rajoute mes variables lambda à cette stratégie quantique. Alors, en fait, il suffit juste de rajouter un lambda ici et je peux montrer que toute stratégie quantique avec accès à une variable cachée probabiliste se ramène à une autre stratégie avec une variable cachée probabiliste un peu plus grosse. Donc, le cas quantique local avec aléa partagé ne change rien, et en particulier, il ne fait pas mieux que le cas déterministe avec aléa partagé, qui lui-même ne fait pas mieux que le cas déterministe. Et donc, nous avons démontré de façon complètement informatique, hein, ce n'est pas comme ça qu'historiquement cette inégalité a été démontrée, mais ici avec une approche vraiment très informatique, que sur ce jeu CHSH, on ne peut pas faire mieux que 3 quarts. Et donc, pour séparer les deux modèles, qui est donc physique quantique locale plus variable cachée et non-localité quantique, il suffirait qu'il y ait une solution qui fasse mieux que 3 quarts. Et donc, bien sûr, il y en a une, et la voici. Alors, c'est toujours le même jeu, et donc on va utiliser, bien sûr, une paire EPR, on a travaillé un petit peu dessus tout à l'heure, partagée. Donc, c'est-à-dire le premier qubit est du côté d'Alice, le deuxième du côté de Bob. C'est-à-dire que Alice peut appliquer une opération de son côté, Bob de son côté, et lorsqu'ils font une mesure, Alice récupère uniquement la mesure du premier bit et Bob du deuxième bit. Alors la solution est vraiment très simple, hein, que quelques lignes. Donc on part de cet état. Alors j'ai fait une présentation qui était la plus symétrique possible. Donc Bob commence par corriger un petit peu, parce que ce n'est pas vraiment cet état qu'il voudrait. Donc il fait une petite rotation d'angle pi sur 8. Et ensuite, déjà, s'ils reçoivent le bit 0, ils ne font rien comme manipulation supplémentaire. En revanche, si Alice reçoit le bit 1, alors elle va faire elle aussi une rotation, mais d'angle pi sur 4. Si Bob reçoit le bit 1, il fera aussi une rotation, mais d'angle moins pi sur 4. Arrivé à ce moment, Alice et Bob observent. Ils ont donc un bit, et ce bit, c'est le résultat qu'ils renvoient à la banque. Alors, j'ai mis dans ce petit tableau l'état du... l'état quantique partagé unique, avant la mesure, donc après qu'ils aient fait les rotations. Alors j'utilise cette notation-là qu'on avait déjà utilisée la dernière fois, donc j'appelle cet état-là bêta 0,0, donc c'est l'état partagé. Et ici le 0,0, c'est pour indiquer quelle est la rotation qu'ils ont faite de leur côté. Donc bêta 0,0, ils n'ont fait aucune rotation pour le moment. Alors prenons le cas où ils ont tous les deux 0,0. Dans ce cas-là, seul Bob a fait une rotation, donc pi sur 8 au début. Prenons le cas peut-être 1,1. Ici, Alice a fait une rotation, donc pi sur 4. Bob avait fait une rotation, donc pi sur 8, suivie par une rotation, donc moins pi sur 4. Donc au final, c'est moins pi sur 8. Et voici les quatre valeurs possibles. Et donc, là, on a l'impression qu'on est parti pour faire beaucoup de calculs, qui a calculé la probabilité de succès. Alors, la probabilité de succès va être le cosinus carré de l'angle pi sur 8. Alors, on voit un peu de pi sur 8 apparaître dans le tableau, donc ce n'est pas surprenant, et qui est donc plus de 85%, et donc il faut comparer ça aux 3 quarts, 75%. Donc, l'écart est suffisamment grand pour qu'on puisse espérer le constater de façon expérimentale. Parce que, de façon... on sait que classiquement, enfin avec des corrélations locales, on ne fera pas mieux que 75%. Donc si on fait une expérience et qu'on n'a pas ça, mais qu'on a ne serait-ce que 78% de corrélation, alors c'est très bien, on a fait plus que 75%. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas faire mieux en fait, de façon quantique. Donc il y a aussi une preuve qui apparaît beaucoup plus tard, dans les années 80. Et je la présenterai. Alors je vais essayer de présenter une preuve de ce résultat avec les outils qu'il faut pour que la preuve soit agréable et facile à suivre. Donc, bien sûr, on peut réaliser cette stratégie de façon expérimentale. Alors, je suis en train de dire que Alice fait des opérations de son côté, Bob de son côté, sans trop vraiment dire ce que cela veut dire mathématiquement. Donc, il est temps de définir proprement ce que cela veut dire. Et là, j'ai besoin de la notion de probabilité tensorielle. Et encore une fois, donc, je vais expliquer ce dont on a besoin. Il y aura quelques fondements mathématiques. On n'est pas forcément obligé de comprendre en détail, pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça donne une base solide pour ceux qui veulent avoir la justification. Alors, on est vraiment dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a deux registres. On a deux registres, on a le premier bit et le deuxième bit. De façon générale, je pourrais avoir un ensemble de registres d'un côté, que j'appelle A pour Alice, et un ensemble d'autres registres que je peux appeler B pour Bob. Donc ces registres décrivent chacun un certain nombre d'états. Donc à la place de S, hein, A, c'est l'ensemble des états possibles du côté d'Alice, B, l'ensemble des états possibles du côté Bob. Donc quand je regarde conjointement Alice et Bob, quels sont les états classiques qu'ils peuvent avoir? C'est le produit cartésien AB, c'est-à-dire toutes les paires d'états X, Y, où X est dans A, Y est dans B. La mécanique quantique nous dit que je peux faire une superposition sur tous les états produits possibles, sur tous les états du produit cartésien AB. Donc, c'est un vecteur de coordonnées X, Y, X étant dans A, Y dans B. Ce vecteur est donc, peut s'écrire avec ma notation quête comme une superposition de état XY avec l'amplitude que je vais appeler ici gamma XY et la somme va sur tous les états possibles X et Y classiques. Donc ça c'est la version où on part des états classiques qu'on peut générer avec ces deux registres. On pourrait partir autrement. On pourrait d'abord regarder les superpositions que on peut avoir sur le premier registre et les superpositions qu'on peut avoir sur le deuxième registre. Alors, sur le premier registre, l'ensemble des états possibles, c'est, alors j'ai appelé psi 1, c'est une superposition sur tous les états de classique X. Et du côté de B, c'est l'ensemble d'une superposition sur tous les états Y. Et étant donné donc une description, de l'état du côté d'Alice et l'état du côté de Bob, j'aimerais avoir une description de l'état global. Et la réponse est le produit tensoriel de ces deux états-ci. Alors, bien sûr, tout le monde n'a pas déjà vu forcément le produit tensoriel. C'est comme un produit normal où on va mettre côte à côte les registres. Et donc, le produit tensoriel de ces deux états-là, ça va être donc le produit où je vais donc multiplier ces deux choses. Et donc, je vois toutes les combinaisons possibles de x et y. Et l'amplitude de x et y va simplement être le produit des amplitudes correspondantes alpha x, bêta y. Alors, un tel état est un état produit que j'ai obtenu en prenant un état sur le premier registre et un état sur le deuxième registre. Et on a vu que, la semaine dernière, c'est que l'état justement que je considère ici, l'état EPR, 0, 0 plus 1, 1, n'est pas un état produit. Et effectivement, il y a d'autres façons de générer des états que faire le produit de deux états. Donc, de façon générale, un état va être une superposition de tous les produits des états de base avec les amplitudes correspondantes. Dit autrement, un état du produit tensoriel peut être toutes les combinaisons linéaires d'états séparés. Et dans ce cas-là, on dit qu'on a un état enchevêtré. Et ce qui est rassurant pour nous, c'est que ces deux visions sont complètement équivalentes. Donc je suis dans cette situation-là. Et quand je suis dans cette situation-là, je peux faire une action sur un système uniquement ou sur les deux systèmes. Donc lorsque j'ai une transformation sur un système et une transformation sur le deuxième système, on peut se poser la question, quelle est la transformation sur le système global ? Parce que le système global est enchevêtré. Alors la transformation est simplement le produit tensoriel des opérateurs, et il faut le définir maintenant. Eh bien, il est défini très simplement lorsque il est appliqué à un état produit. Il suffit d'appliquer G1 sur la première composante et GB sur la deuxième composante. Donc on applique l'opérateur correspondant à son registre et j'obtiens le produit tensoriel des états que j'aurais obtenus. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque l'entrée n'est pas un état produit. Et là, on utilise la linéarité. Il suffit de décomposer, donc là j'ai mis un état qui n'est pas forcément un état produit. On utilise la linéarité, c'est-à-dire que c'est la même chose que d'appliquer cette opération sur les états ici de base, qui sont par définition des états produits. Et on ne peut pas faire autrement. Alors ce qu'on revient ici, c'est que si on applique juste une opération quantique sur un registre, qu'est-ce qu'on fait sur l'autre registre ? Bon, on fait l'identité. Et ce qu'on observe aussi ici, c'est lorsqu'on fait une opération sur un registre et un autre sur un autre registre, bah bien sûr, elles commutent, vu qu'elles sont séparées. Alors là, c'est le formalisme dont on aura besoin. Mais ce formalisme est au fond assez intuitif. Donc ça, il faut se rassurer avec ça, si ces notations perturbent un peu. Et là, pour la mesure, ça va être la même chose, bien sûr. Alors, je l'avais dit la semaine dernière, mais un peu rapidement. Donc là, je le redis, et avec le formalisme qu'il faut. Donc, je vais faire une mesure partielle. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc, j'ai deux registres, et je vais mesurer qu'un seul registre, le registre A. Que se passe-t-il ? Donc, bien sûr, on va avoir le résultat de ce registre. Mais que devient l'autre système ? Alors, j'avais dit la semaine dernière, il doit être compatible avec le résultat de la mesure. Alors, voici un exemple. Supposons qu'on a une superposition que j'ai décomposé ici sur la base de calcul donc des états classiques de A, donc l'amplitude sur X c'est alpha X, et du côté de Bob, bah, j'ai quelque chose, un état quantique. Alors, quand je vais faire cette mesure, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, je vais voir X avec probabilité le carré du module donc de alpha X. Psi x, là, ça va être un état de norme 1. Et après la mesure, l'état va être réduit, va être projeté sur quelque chose qui est compatible. Ce qui veut dire qu'on ne va le garder que ce qui commençait par x. Donc tout le reste disparaît. Ce qui correspondait à l'état 0, 0 plus 1, 1. Si j'observe 0 sur le premier qubits, le deuxième est à 0. Alors, ce qu'il y a derrière cette notation, en fait, c'est quelque chose qu'on pourrait généraliser. Il y a une notion de projection. On a projeté de façon orthogonale sur un résultat compatible avec le résultat de la mesure. Donc, quel est ce projecteur? Alors, ici, la notation donc, ket est très agréable. Donc, en fait, donc, ici, on voit ket, ici, on voit le bras. Donc, bras, c'est simplement le vecteur transposé conjugué. Et ceci est simplement le projecteur orthogonal sur l'état de base X. Et donc, qu'est-ce qui se passe si j'applique ce projecteur orthogonal sur un autre état de base Y? Ben ici, je reconnais en fait un produit scalaire. Et c'est en ça que cette notation est agréable, c'est qu'on reconnaît facilement les produits scalaires. Et donc, je reconnais ici le produit scalaire entre X et Y. Et là, j'ai le vecteur X. Donc, je vois que je vais projeter sur X. X et Y sont des vecteurs de base, donc ils sont soit égaux, soit orthogonaux. Si X égale Y, eh bien, je vais projeter au fond X sur X, je n'ai rien fait. Mais si X n'est pas égal à Y, ce produit scalaire est nul. Et dans ce cas-là, j'ai le vecteur 0, nul, des coordonnées à 0 partout. Donc cette notation est agréable parce que maintenant, je peux définir le projecteur correspondant à cette mesure. C'est je projette sur le premier registre sur X, et je ne fais rien sur le deuxième registre. Et dans ce cas-là, une mesure sur X va me fournir X avec une probabilité qui correspond au poids de mon état sur X, c'est-à-dire simplement la norme de la projection de mon état par ce projecteur. Et ce qui est encore une fois très agréable de voir, c'est que cette norme s'écrit simplement comme un produit scalaire du projeté sur l'état de départ. Alors cette notation, encore une fois, je n'en aurais pas forcément besoin, mais je veux l'écrire pour avoir une base mathématique plus solide pour ceux qui le veulent, puis aussi pour ceux qui veulent continuer plus loin, ce sont des calculs qu'on peut retrouver. Pour nous, cette première formulation, qui est au fond naturelle, sera suffisante. Encore une fois, les mesures commutent. Et mesurer, ce qui est très rassurant, c'est que mesurer les deux registres en même temps, c'est la même chose que mesurer un registre d'un côté, puis un deuxième registre de l'autre, éventuellement plus tard. Donc nous sommes prêts à regarder ce qui se passe maintenant sur la stratégie quantique. Alors, deux petits exercices qui vont nous permettre de nous mettre en jambes et de simplifier énormément les calculs. Une propriété très sympathique de cet état PR, c'est qu'au fond, quand on applique une opération sur un bit quantique, donc celui de gauche ou de droite, cela revient à en appliquer une autre sur l'autre bit. Donc, il y a quelque chose d'assez étrange en termes de localité, c'est qu'on peut décider où on fait l'opération, ça revient au même. Alors, mathématiquement, il s'agit de montrer que si on applique une transformation U sur le premier qubit, cela revient à appliquer la transformation transposée U, donc je vais expliquer ce que c'est, sur le deuxième qubit. Alors pourquoi ? Il suffit de faire le calcul, au fond, c'est très simple. Et faire ce calcul va nous permettre de nous familiariser justement avec ces produits tensoriels, avec ces superpositions et observations. Donc, et aussi la notation matricielle. Donc, une transformation unitaire est une matrice de 2 avec des coefficients ABCD. Ici, je n'ai même pas besoin d'utiliser le fait qu'elle est unitaire, en fait. Donc, juste n'importe quelle matrice. Donc, j'applique U sur le premier qubit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon 0 va partir sur cette colonne-là, c'est-à-dire sur A0 plus C1. Okay. Du côté de Bob, il ne se passe rien. Le 0 reste 0. Et mon 1 va partir sur cette colonne-là, donc B0 plus D1. Et encore une fois, du côté de Bob, il ne se passe rien. Développons et refactorisons de l'autre côté. Qu'est-ce qui commence par 0? Eh bien, j'ai mon 0 ici, donc c'est A0 que je retrouve là. Puis j'ai mon 0 ici, et donc ça fait B1 que je retrouve ici. Et qu'est-ce qui commence par 1? Eh bien, donc j'ai mon 1 ici, donc C0 que je retrouve ici, et D1 que je retrouve ici. Donc quelle est cette opération? Bah, c'est comme si donc, j'avais fait quasiment la même, c'est quasiment la même ligne du haut, sauf que B et C ont été échangés. Donc c'est comme si, au lieu d'avoir fait U sur le premier qubit, j'avais fait la transposée de U sur le deuxième qubit, et la transposée simplement quand on échange les éléments qui ne sont pas sur la diagonale. Ça, ça va être très utile pour simplifier énormément les calculs. Deuxième exercice, la probabilité d'observer 0 et 1 sur le premier bit, bah, c'est 1/2. Ça, simplement parce que l'amplitude est 1 sur racine de 2. Donc au carré, 1/2. Qu'est-ce qui se passe si j'observerais dans une autre base? Alors, observer dans une autre base revient à tourner la base avant l'observation. Donc je tourne la base sur le premier qubit et j'observe. Mais tourner la base sur le premier qubit, c'est la même chose que tourner la base autrement sur le deuxième qubit. Donc c'est comme si je demandais au deuxième qubit de faire ce changement de base. Dans ce cas-là, l'opération sur le deuxième qubit ne peut pas affecter le premier qubit, vu que ces opérations sont séparées. Donc le fait de déporter l'opération sur le deuxième qubit n'affecte pas le résultat de la mesure sur le premier qubit, et donc le résultat reste 1/2, 0, 1/2, 1. Bon, c'est une preuve par la pensée, on va dire, qui utilise le résultat du premier exercice. Donc sans calcul, je peux démontrer, en utilisant ce résultat, que changer de base ne change pas le résultat du calcul. Si je regarde qu'un seul bit, bien sûr. Alors, maintenant, on est prêt à analyser notre stratégie quantique. Donc là, j'ai remis. Hein, et l'analyse va utiliser cet exercice. Alors, les quatre états possibles juste avant l'observation, on l'a dit tout à l'heure, sont formalisés par ce tableau. Alors maintenant, je vais utiliser ce qu'on a dit, c'est que une rotation, c'est qu'une transformation sur un registre, c'est pareil que l'opération transposée sur le deuxième registre. Dans le cas d'une rotation, la transposée, c'est l'inverse de la rotation. C'est-à-dire que si on fait une rotation d'un certain angle θ sur le premier bit, ça revient à faire une rotation d'un angle moins θ sur le deuxième bit. Et donc là, on va se servir de ça. Donc par exemple, ici, j'ai à gauche une rotation d'angle pi sur 4, à droite, une rotation d'angle pi sur 8. Donc cette rotation d'angle pi sur 8, c'est comme si je faisais une rotation d'angle moins pi sur 8 sur le premier bit. Pi sur 4 moins pi sur 8, ça va me faire donc pi sur 8. Donc je peux faire ça partout. Et donc on se rend compte qu'au moins sur ces trois états-là, j'ai toujours le même état, c'est-à-dire une rotation d'angle pi sur 8 sur un des bits et aucune rotation de l'autre côté. Ce qui veut dire que l'analyse de ces trois situations est identique. Ça fait une simplification. Le dernier cas qui nous reste ici est aussi intéressant. C'est aussi intéressant parce que je vois que j'ai un angle pi sur 2 qui est arrivé ici. Alors un angle pi sur 2 veut dire qu'au fond, j'ai transformé un 0 en 1 et un 1 en 0. Et ça, ça correspond exactement à la situation ici, quand je reçois xy égale 1, 1, il faut que les résultats soient différents. Dit autrement, s'ils étaient identiques, il faudrait que je les transforme de façon différente. Et une façon de faire ça, c'est de simplement transformer un 0 en 1. Donc je prétends que même l'analyse dans le cas 1, 1 est équivalente aux autres, vu qu'on a changé un 0 en 1. Donc au final, il suffit d'analyser un seul cas, c'est-à-dire la probabilité de succès dans une de ces cases, toutes les autres s'y réduisent. Ça, c'est déjà rassurant. Et donc, je choisis le cas 0, 0. Donc, Alice et Bob ont reçu 0 et elles doivent renvoyer la même valeur, A égale B. Alors, quel est l'état du système? L'état du système est 0 pi sur 8. C'est-à-dire que j'ai 0 et du deuxième côté, une rotation d'angle pi sur 8, avec amplitude 1 sur racine de d, plus 1, et l'autre côté, 1 tourné de pi sur 8, avec amplitude 1 sur racine de 2. Si Alice observait 0, dans ce cas-là, l'état du bit de Bob doit être compatible avec cette mesure. C'est donc le 0 tourné de pi sur 8, et je l'ai écrit ici. Alors maintenant, quelle est la probabilité que Bob, dans ce cas-là, dise la même chose qu'Alice, c'est-à-dire 0? C'est le carré de l'amplitude de 0, c'est-à-dire le cosinus carré. Si Alice mesure 1, le même calcul, bien sûr, se produit, la probabilité qu'il observe 1 est aussi cosinus carré pi sur 8. Et donc, dans le cas où l'entrée 0, 0, la probabilité de succès est cos carré pi sur 8, et comme je l'ai dit, tous les autres cas vont être similaires, et on a terminé le calcul. Donc on a fini, donc l'analyse est un peu longue, mais chaque étape est au fond assez simple. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas faire mieux. De façon quantique, il est impossible de faire mieux. Donc ça a été prouvé par Tyrelson dans les années 80. Je vais faire la preuve de cette borne à la fin du cours. Elle est un peu technique, donc je préfère la repousser à la fin du cours, mais courte. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que lorsqu'on atteint cette borne, lorsqu'on a un jeu qui gagne avec probabilité cos carré pi sur 8, alors il y a unicité de la stratégie. À, bien sûr, une isométrie près, on peut toujours tout tourner ensemble. Il y a une telle unicité qu'on peut faire même aucune hypothèse sur les mesures, sur l'état, fait vraiment zéro hypothèse, et on sait qu'au fond, on a fait exactement ce que j'ai décrit. Et ça, c'est intéressant. Alors, les premières preuves sont apparues dans les années 2000. Alors, il y avait quelques hypothèses de plus, mais qui ont été retirées depuis. Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est, bien sûr, en pratique, on n'a jamais exactement cosinus carré pi sur 8. Donc, on se rapproche de ce taux de succès. Alors, comment d'ailleurs on fait pour se rapprocher de ce taux de succès? C'est qu'on répète plusieurs fois l'expérience, bien sûr. Et donc, ce qui est possible de démontrer, c'est que cet théorème est robuste. C'est-à-dire que plus on est proche de l'optimal, plus la stratégie est proche de l'optimal. Et depuis, il y a eu énormément d'applications. Donc, c'est une ligne de recherche qui s'appelle Device Independent. Donc, sans savoir, au fond, quels sont les composants qu'on utilise, par une série d'expériences, on peut les caractériser. La seule hypothèse qui est utilisée, c'est cette barre ici, c'est-à-dire que cette possibilité de séparer l'expérience en deux parties et être sûr que les deux parties ne communiquent pas entre elles. C'est la seule hypothèse. La deuxième hypothèse, peut-être, c'est que les lois de la mécanique quantique sont correctes. Donc, il y a toute une notion d'autothèse qui a été développée et une autre qui est très intéressante qui va être abordée dans le séminaire de Thomas Vidic, c'est comment certifier de l'aléa de façon quantique. Donc, c'est vraiment toute une ligne de recherche très intéressante. Une autre qu'on verra, en revanche, ça sera tout à la fin de cette série de cours, il est possible de faire ce qu'on appelle du calcul délégué et certifié sur un ordinateur quantique qui serait à grande distance. Alors, on peut faire d'autres choses, parce qu'au fond, ce n'est pas tellement satisfaisant de ne pas avoir une probabilité de gain 1. Bon, ce cosinus carré pi sur 8, c'est bien, mais est-ce qu'on peut faire probabilité 1? Alors, on peut. Voici un exemple. C'est un exemple où on a trois joueurs cette fois-ci. Donc, Alice, Bob et Charlie. Ils reçoivent chacun un bit. Ils rendent chacun un bit. Ils ne peuvent pas communiquer, mais ils partagent éventuellement un état ou une variable cachée probabiliste. Alors, le jeu est un peu plus complexe dans le sens qu'il faut une hypothèse, c'est-à-dire que la banque n'a pas le droit de donner n'importe quelle distribution d'entrée x, y, z. Et donc, ce symbole-là, pour dire que la parité du nombre de 1, ben, ça doit être pair. Donc, voici les quatre états possibles. Donc, soit que des 0, soit un nombre pair de 1. Donc, 2, en l'occurrence. Et l'objectif, c'est que la réponse, donc le OU exclusif des 3 bits donnés doit être égal au OU tout court des 3 bits entrés. Donc c'est un petit peu, abstrait, mais simple. Au fond, comme il n'y a que 4 valeurs possibles, c'est très simple. Ici, le OU est à 0, l'autre, dans les autres cas, égal à 1. Donc, quand l'entrée est que des 0 pour les 3 joueurs, il faut que les sorties aient un nombre pair de 1, c'est-à-dire soit aucun, soit 2. C'est-à-dire tous les joueurs disent 0, ou alors exactement deux joueurs disent 1 et le troisième 0. Et lorsque, dans tous les autres cas, il faut un nombre impair de 1, c'est-à-dire un joueur dit 1 ou tout le monde dit 1. Alors, il est facile de se convaincre que classiquement, on ne peut pas faire mieux que 3 quarts, et quantiquement, on peut gagner avec probabilité 1. Alors, la solution est assez simple. Il faut définir le bon état de base et ensuite le protocole. Donc, le bon état de base est cet état partagé. Donc, on voit, c'est une superposition de 4 valeurs possibles, et à chaque fois, j'ai 3 bits quantiques. Donc, le premier pour Alice, le deuxième pour Bob, et le troisième pour Charlie. Et le protocole est vraiment simple. Si un joueur reçoit 0, il ne fait rien à part observer son bit. S'il reçoit 1, il applique la porte de Hadamard qu'on avait vue la dernière fois, qui, je vous rappelle, échange 0 avec 0 plus 1 sur racine de 2 et 1 avec 0 moins 1 sur racine de 2. Alors, dans tous les cas, la probabilité de succès est 1. Et le cas le plus simple, c'est quand tout est à 0. Que dans tout état 0, personne ne fait rien. Donc, il suffit juste d'observer. Et dans l'état que j'ai mis ici, on voit bien que le nombre de 1 est pair. Donc, il n'y a pas de problème, on gagne bien tout le temps. On va répondre quelque chose d'aléatoire. Soit 0, 0, soit 0, 1, etc. Mais le nombre de 1 est pair. Alors, bien sûr, le cas plus difficile, c'est lorsque on fait quelque chose. Alors, ce que je vous propose rapidement, c'est de regarder dans le cas où l'entrée est 0, 1, 1. C'est-à-dire, Bob et Charlie vont faire une transformée de Hadamard. Alors, le calcul peut faire... on peut dire, il va falloir calculer, mais en fait, bien sûr, il y a un peu d'intuition derrière tout ça, et donc le calcul est assez simple. Donc, ce que j'ai fait, j'ai simplement factorisé le premier bit sur lequel on ne fait rien. Donc là, je vois 0 fois 0, 0, moins 1, 1, et là, 1 fois 0, 1, plus 1, 0. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait... 2 Hadamard, 1 sur chaque bit sur cette partie-là. Et pareil ici, par linéarité, on le fait sur les deux. Et ce qui est joli, alors là, c'est, au fond, il suffit de faire le calcul, c'est que cette partie-là va être envoyée sur celle-ci. Donc le 0, 0, moins 1, 1 s'envoie sur 0, 1, plus 1, 0. Et donc, inversement, 0, 1 s'envoie sur 0, 0, moins 1, 1. Et donc, on est en train de changer la parité. L'état final est donc quoi? Eh bien, au lieu d'avoir cette partie-là, j'ai cette partie-là qui commence par 0. Et pareil de l'autre côté, et ça y est, le nombre de 1 est devenu impair. Le nombre de 1 possible. Si j'observe, j'aurai soit 0, 0, 1, soit 0, 1, 0, soit 1, 0, 0, soit 1, 1. Le nombre de 1 est devenu impair. Bon, ça a l'air d'être un peu magique, hein, mais au fond, c'est assez simple. Et je voulais vous le montrer pour voir un peu quel genre de choses on peut faire. Et on peut faire beaucoup de choses. Et les autres cas sont rien d'autre que des symétries de ce cas-là, donc c'est très facile. Alors, à partir de ce... une fois que ces jeux quantiques ont commencé à être de plus en plus étudiés, à la fois par des physiciens et des informaticiens, au fond, pourquoi s'arrêter là? Pourquoi s'arrêter aux stratégies quantiques? Au fond, on a envie d'étudier la non-localité possible de ces jeux, ou des probabilités, ou des stratégies. Donc, ce que nous dit la mécanique quantique, c'est qu'il y a des stratégies qui sont non-locales. Donc, la question qu'on se pose, c'est qu'il y a des stratégies qui sont non-locales et au-delà du quantique. C'est une question mathématique. Alors, bien sûr, on ne voudrait pas non plus faire n'importe quoi. Et donc, la motivation qu'il y a derrière tout ça, c'est essayer d'expliquer la physique quantique à partir de principes simples. Donc, le premier est la non-localité. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle le non-signaling, c'est-à-dire qu'il est impossible de transmettre de l'information instantanément. Alors, on a l'impression que la non-localité permet ça. Donc, je voudrais revenir sur ça. C'est ce qui dérangeait, au fond, Einstein, Podolsky et Rosen. Lorsqu'on observe 0, 0, l'état 0, 0 plus 1, 1 sur racine de 2, quand Alice observe 0, on a l'impression qu'elle transmet l'information instantanément à Bob. Alors, pourquoi elle ne le fait pas? Parce qu'en fait, elle ne transmet aucune information. Le résultat est aléatoire. C'est ça qu'il faut, intégrer pour comprendre que ce n'est pas un paradoxe. Donc le deuxième principe dit Alice ne peut pas choisir une information et la transmettre instantanément. Donc cela nous dit, par exemple, dans cet exemple de jeu CHH, Alice ne peut rien transmettre sur X. En revanche, bien sûr, son résultat de mesure doit être cohérent avec le résultat de la mesure de Bob. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec ces deux principes, non-localité et non-communication ? Eh bien, ce sont des propriétés qu'on peut mathématiser sans problème. Et il apparaît qu'avec seulement ces deux principes, on peut séparer la mécanique quantique du coup, de ces corrélations non communicantes et non locales. Et donc, on obtient de nouvelles corrélations pour lesquelles on peut aller jusqu'à une probabilité de succès égale à 1. C'est-à-dire qu'il est possible de gagner à ce jeu avec des corrélations probabilistes qui sont au-dessus de la mécanique quantique. Et à partir de là, vraiment énormément de... Et oui, ce que je dois dire, c'est quelle est cette corrélation ? Ben, c'est simplement celle qui gagne tout le temps. C'est celle qui va répondre soit 0,0, soit 1,1 avec probabilité 1,5 quand les entrées ne sont pas 1,1, ou soit 0,1, soit 1,0 avec probabilité 1,5 lorsque les entrées ne sont pas 1,1. La probabilité 1,5 ici est importante, si je mets une autre probabilité, alors la corrélation communiquerait. Donc ici, j'ai un ensemble de corrélations qui ne s'explique pas par la mécanique quantique, mais qui est non communicante et non locale. Et donc là, ça devient un objet mathématique d'étude qui est très riche, qui a été très étudié et qui permet de démontrer même des résultats mathématiques ou informatiques à l'aide de ces outils. Et c'était vraiment très important. Alors, on représente en général ces corrélations par ce diagramme. Donc ici, alors, bien sûr, il est un peu artificiel, ce n'est pas forcément un carré, c'est en très grande dimension. Donc on a au centre les corrélations locales, puis un peu au-dessus, on a les corrélations quantiques, et encore au-dessus, on a les corrélations donc non-signaling. Donc là, je voulais juste faire le point sur le fait que ce genre d'étude a débouché vers une étude de corrélation non-locale, non-communicante, qui vont au-delà du quantique. OK, ma deuxième partie d'exposé, elle va être plus courte, concerne donc la cryptographie quantique. Qu'est-ce que je peux faire avec ces corrélations ? Et plus que la distribution de clés. Alors, la première chose que je voudrais faire, c'est le tirage à pile ou face. Alors, qu'est-ce qu'un tirage à pile ou face ? Deux personnes sont au téléphone et veulent tirer à pile ou face. Donc, la question, c'est qui tire à pile ou face et comment croire l'autre ? Alors, bien sûr, pourquoi c'est important ? Alors, dans les années 80, donc, il y a une série d'articles intéressants, donc les titres sont assez évocateurs, qui prétendaient qu'avant de faire de la cryptographie distribuée, il fallait répondre à ce problème. Et effectivement, une fois qu'il a été répondu à ce problème, toute une cryptographie distribuée, donc en anglais les termes c'est Secure Multipartite Computation ou Secure Function Evaluation, a été développée. Et c'est ce que j'ai envie de décrire comme la cryptographie moderne, qui est effectivement très, très utilisée aujourd'hui et très étudiée. Et cette cryptographie repose sur ce qu'on appelle des primitives, c'est-à-dire des tâches de base, telles le pile ou face, ou d'autres plus évoluées, comme la mise en gage, qu'on va voir rapidement, et le transfert équivoque. Mais commençons donc par cette primitive très simple. Que peut-on faire classiquement ? Eh bien, comme la cryptographie, on peut avoir des solutions qui reposent sur la difficulté de certains problèmes, mais sur une sécurité qui n'est pas prouvée. Et il n'y a aucune alternative possible. La mécanique quantique permet d'avoir une alternative. Alors, pas parfaite. Donc, le premier résultat en 2001 a permis de montrer qu'il était un protocole, donc sûr, qui permettait de garantir un biais d'au plus 0,25. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Normalement, on a pile avec probabilité 0,5, 1,5. Donc, le biais est au plus 0,25, c'est-à-dire que je peux garantir que la probabilité d'avoir pile sera entre 0,25 et 0,75. C'est pas si mal. Une année après, il a été montré qu'en fait, on ne pourrait pas avoir un biais aussi proche de zéro qu'on veut. Il n'est pas possible d'avoir un pile ou face parfait en quantique, sauf à moins d'avoir une hypothèse combinatoire. Et donc, on ne pourrait pas garantir plus qu'un biais autour de 0,21. Il a été démontré, intéressant de voir quand même, 7 années après, que ce biais était optimal, et donc il y a un protocole qui s'approche de ce biais. Alors, on peut dire, c'est au fond, peut-être qu'en pratique, on ne veut pas faire ça quand vous faites un tirage à pile ou face. On fait ce qu'on appelle un tirage faible. Je gagne si vous gagnez si vous avez face. Dans ce cas-là, on sait à l'avance si quelqu'un veut tricher, de quel côté il veut aller. Et dans ce cas-là, c'est vraiment très surprenant, de façon quantique, on peut avoir un biais aussi proche de zéro, et on peut le garantir. Alors, pour la petite histoire, ce protocole a été découvert en 2007 par Mochon, qui a publié l'article qui fait plusieurs dizaines de pages et s'est retiré du monde académique et est parti dans l'industrie. Donc cet article n'a jamais été reviewé. Donc heureusement, d'autres chercheurs ont repris l'article, amélioré et après publié, et donc il a été reviewé. Alors je voudrais aborder un peu avec vous les difficultés du tirage à pile ou face. Donc on a envie bien sûr d'utiliser une paire EPR. Puisqu'on est au début, si l'un des deux observe, l'autre observera la même chose, donc une sorte de pile ou face à distance. Et en plus, non biaisé. Alors, quel est le problème? Qui va créer cet état EPR? Alors, si c'est Alice, il faut bien que Bob vérifie. Pourquoi? Parce qu'Alice peut simplement envoyer zéro et dire, regarde, c'est un état EPR. Comment vérifier qu'Alice a vraiment envoyé une superposition de 0, 0 et de 1? Donc Bob a besoin du deuxième qubit, des deux qubits. Mais si Bob reçoit les deux qubits, à son tour, il peut modifier l'état. Donc ça ne marche pas. Alors il y a plusieurs solutions. Là, je présentais une solution de Hoyer-Salvay, pareil, qui n'a pas été publiée parce qu'elle est arrivée en même temps que le papier d'Ambainis, mais elle a, qui présentait une autre solution. En revanche, celle-là a l'avantage d'être très simple et d'être dans la continuité de ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant. Donc plutôt que d'utiliser une paire EPR, on va en utiliser deux. Donc Alice est censée préparer deux paires EPR. Et elle va envoyer chaque moitié à Bob. À ce moment-là, Bob va choisir quelle paire EPR il va vérifier. Donc il dit à Alice, et là il tire au sort. Alice, écoute, je voudrais vérifier que la première paire est vraiment une paire EPR. Dans ce cas-là, ils vont utiliser la deuxième paire EPR pour faire un tirage à pile ou face. Une fois que ce tirage à pile ou face est fait, Alice envoie ce qu'il manque de la première paire EPR et Bob va faire une mesure de Bell, comme on a vu la dernière fois, pour s'assurer que l'état est bien 0, 0 plus 1 sur racine de 2. Alors, on peut montrer que... ce qui est évident, c'est que si tout le monde est honnête, tout se passe bien. Et si un des deux joueurs est malhonnête, alors le biais maximum est un quart. Alors, dans ce genre d'analyse, on ne s'intéresse pas à deux joueurs malhonnêtes. Et aussi, dans ce scénario, il n'y a pas d'espion. C'est plutôt Alice ne fait pas confiance à Bob, Bob ne fait pas confiance à Alice. Donc il faut supposer d'abord que soit Bob est malhonnête, soit Alice est malhonnête. Si Bob est malhonnête et Alice donc est honnête, on sait que l'état, et c'est le plus simple, est comme ça. Que peut faire Bob ? Supposons que Bob veut zéro. Il va simplement observer les deux bits qu'il a reçus. Et s'il en a un qui est égal à zéro, il va dire à Alice, on va utiliser l'autre pour tester, mais celui-là pour le tirage à pile ou face. Comme chacune des paires EPR donne un pile ou face aléatoire, non biaisé, la probabilité d'avoir 0 sur la première paire est 1,5, 0 sur la deuxième paire est 1,5, donc la probabilité d'avoir au moins un 0 est 3 quarts. Et donc là, on est arrivé au biais 1 quart. Alors, que pourrait faire Bob ? Alice pourrait préparer autre chose. Donc, supposons aussi qu'Alice veut 0. On avait dit que ce qu'Alice a intérêt à faire, c'est simplement créer l'état 0, 0. Le problème, c'est que si Bob veut vérifier, il va se rendre compte que ce n'est pas un paire EPR. Et donc ici, Alice va utiliser le fait qu'elle ne sait pas encore quel est l'état qui va servir pour la vérification. Et donc, elle va faire une superposition des deux possibilités. 0,0 avec l'état EPR de l'autre côté, ou l'état EPR avec 0,0. Et il est possible de montrer par le calcul que dans ce cas-là, le biais est encore un quart. Il est plus complexe de montrer que c'est la stratégie optimale. Mise en gage. Alors, je vous ai dit, le tirage à pile ou face, c'est la première étape, il faut absolument le faire. En revanche, on a besoin de primitives un peu plus élaborées pour faire cette cryptographie distribuée. Donc, cryptographie distribuée veut dire plusieurs personnes sont ensemble, ici deux, et elles ne se font pas confiance. Alors, la mise en gage est une sorte de coffre-fort numérique. Donc, Alice a un bit B. Dans une première phase, elle aimerait le mettre dans un coffre-fort et envoyer le coffre-fort à Bob, de sorte que ce bit est chez Bob, mais Bob ne peut pas le lire. Plus tard, Alice aimerait révéler ce bit. Donc, comment elle fait ? Schématiquement, elle aimerait envoyer la clé qui permet d'ouvrir le coffre-fort, et Bob va pouvoir vérifier qu'elle avait mis en gage le bit B. Donc, cette primitive est vraiment fondamentale, c'est celle qui sert vraiment, et ça sert aussi à des tâches, bien sûr, de cryptographie distribuée, mais d'autres comme des preuves à divulgation nulle, qui sont très intéressantes, par exemple, pour révéler le fait que vous avez le bon code secret sans taper votre code secret. Donc, c'est vraiment très, très important. Et c'est ce type de primitive qui est utilisé. Alors, les solutions, encore une fois, classiques, sont basées sur la difficulté de problèmes combinatoires. Existe-t-il une alternative quantique ? Alors, pour le tirage à pile ou face, on a vu que si on voulait savoir qui voulait pile, qui voulait face, on avait une alternative parfaite. Est-ce qu'il en existe une ici ? Alors, à quoi ressemblerait une alternative quantique ? Et là, je fais une formalisation un peu simplifiée. Alors, un peu simplifiée, de sorte que je vais simplifier les deux phases, mais il est possible de démontrer que cette formalisation est, au fond, aussi assez complète pour pouvoir tout modéliser. Au fond, en quantique, Alice va préparer un état quantique qui va dépendre du bit qu'elle veut mettre en gage. Cet état quantique va avoir deux registres, un qu'elle va garder et l'autre qu'elle va transmettre à Bob lors de la première phase. Et lorsqu'elle veut révéler son bit, elle va envoyer le bit à Bob et son premier registre, et Bob doit être en possibilité, en mesure de pouvoir vérifier qu'elle a bien mis en gage B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la première phase, Bob ne doit rien pouvoir apprendre, sinon ce n'est pas un coffre-fort. Donc, rien pouvoir apprendre, ça veut dire que peu importe ce que Alice a envoyé, une mesure du registre de Bob ne doit pas révéler le bit B. La deuxième partie, lorsque Alice révèle, il ne faut pas qu'elle puisse changer d'avis, bien sûr, sinon ça ne servit à rien. Alors, une reformalisation de ces contraintes est celle-ci. C'est lorsque Bob, bien sûr, observe le deuxième registre, je l'ai déjà dit, il ne doit rien apprendre. Et lorsqu'on révèle, à minima, il ne doit pas y avoir d'incertitude. On sait que c'était le bit 0 qui était mis en gage et on sait que c'était le bit 1. Alors, d'un point de vue de mesure, ça veut dire que les projecteurs associés doivent être orthogonaux. Dit autrement, dans la définition du protocole, ici, l'état psi correspondant à la mise en gage de 0 doit être orthogonal à l'état correspondant à la mise en gage de 1. Alors, essayons. On aurait envie d'utiliser cette paire d'états EPR. Donc, disons que pour mettre en gage 0, j'envoie un état EPR. Alors, plutôt, j'envoie le deuxième bit d'un état EPR. Maintenant, j'aimerais avoir un autre état EPR lorsque je veux mettre en gage 1. Alors, je reprends un autre, par exemple celui avec un signe moins. Pourquoi ? Parce que je veux qu'il soit orthogonal. Alors là, on a un problème. On a bien ces deux états sont orthogonaux, mais Alice peut très facilement passer d'un état à l'autre. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière avec le super dense coding ou la téléportation. Il suffit que Alice fasse un échange de phase, c'est-à-dire qu'elle envoie l'état 1 sur l'état moins 1 de son côté, et elle pourra envoyer cet état sur l'autre. Donc elle pourra gagner, elle pourra changer de valeur de B sans se faire détecter. En revanche, Bob n'apprend effectivement rien, puisque s'il observe, il a simplement un bit aléatoire. Alors, essayons autre chose, en fait, on ne peut pas s'en sortir si on prend cette contrainte-là. Il est possible de démontrer que si les états sont orthogonaux, on peut toujours passer d'un état à l'autre et c'est terminé. Et le fait que Bob ne doit rien apprendre. Alors ça, je ne vais pas le démontrer, parce que ça utilise des concepts un peu compliqués et qui ne me servent pas pour les algorithmes quantiques et la suite du cours. Alors, on va renoncer à cette hypothèse et prendre deux états qui ne sont pas orthogonaux. Donc, on sait que Bob peut apprendre quelque chose. Donc, quels sont ces deux états? Si je veux mettre en gage 0, en fait, je ne vais même rien garder, je vais simplement envoyer l'état 0 à Bob. Et si je veux mettre en gage 1, je vais simplement envoyer la superposition uniforme 0 plus 1. Alors là, on se rend compte que si Bob mesure, Bob va apprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle apprend? Qu'est-ce qu'il apprend? S'il observe 0, il ne sait pas. En revanche, s'il observe 1, il saura que c'est 1 qui a été mis en gage. Alors, est-ce qu'il peut faire mieux? En fait, oui, il peut faire mieux. Donc là, j'ai représenté les deux états correspondant aux mises en gage de 0 et mises en gage de 1. Donc, l'angle ici est 45 degrés. Donc, en fait, Bob pourrait deviner B avec probabilité ce fameux cos carré pi sur 8. Alors, il faut deviner quelle est la bonne base de calcul. Alors, il faut prendre la base qui ne discrimine pas un état plus que l'autre. Et donc, c'est simplement cette base tournée de pi sur 8. Et là, on voit bien que quand on a mis en gage psi 0, Bob va lire ce fameux 0 prime que j'ai écrit ici avec probabilité cos carré pi sur 8. Et quand il a mis en gage 1, il va lire 1 prime avec probabilité cos carré pi sur 8. Donc Bob peut tricher avec cette probabilité, mais pas 100%, c'est déjà pas mal. Il ne peut pas apprendre avec probabilité certaine. Est-ce que Alice peut tricher? Alors, qu'est-ce que ça veut dire tricher? C'est au fond changer d'avis. Dire, écoute, non, en fait, j'ai mis en gage 1. Oui, elle pourrait ici, parce que. Mais je me ferais quand même un peu détecter. Donc, en général, quand Alice veut tricher, la meilleure façon de faire, comme elle, au fond, elle ne sait pas ce qu'elle veut mettre en gage, c'est d'envoyer un autre état qui est un peu entre les deux. Donc, l'état entre les deux, c'est celui-là, qui est à angle pi sur 8, donc 22,5 degrés, qui est entre les deux mises en gage. Et là, il est facile de se convaincre que lorsque j'essaie de vérifier que cet état-là est psi 0, je vais être convaincu avec probabilité encore cos carré, pi sur 8. Donc il est même possible de démontrer que c'est maximum. Donc on a quand même une mise en gage où on ne peut pas tricher complètement, mais un peu. Donc se pose la question, est-ce qu'on peut tricher moins? Donc il a été démontré que, en fait, de façon générale, comme je le disais, il est toujours possible de tricher, un peu. Et ce qui a été démontré assez longtemps après avoir réalisé qu'on ne pouvait pas avoir de protocole parfait, c'est qu'il y a une borne maximum qui est atteinte, qui est cette... il est possible de tricher, mais pas plus que 73,9%. Et ce nombre est assez mystérieux. Je ne vous mets pas un cosinus carré ou une racine de 2. Il est assez complexe. Et c'est assez rigolo qu'au fond, la mécanique quantique nous sorte ce genre de nombre. Alors, j'ai quasiment fini. Donc là, en juste deux transparents, je vais prouver la borne maximum pour le jeu CASHH de 85,4%. Donc, je l'ai mise à la fin parce que c'est clairement un peu plus technique. Et j'ai besoin d'un petit peu plus de formalisme. Alors, j'ai besoin de définir ce qu'est une mesure partielle, ce qu'on a déjà fait sur plusieurs registres, mais j'ai besoin de la définir dans le cas général. Alors, cas général, donc je pars d'un système qui est en superposition sur un certain ensemble d'états possibles S, et je vais déjà réécrire ce qu'on a déjà un peu fait, qu'est-ce qu'une mesure d'un état total? C'est observer X, avec la probabilité qui est définie par le projecteur associé orthogonal sur X. Et le résultat est la projection de mon état, et que j'ai dû renormaliser, bien sûr, pour que je sois normal. Donc la physique quantique nous dit que, comme on l'a vu, mais de façon plus générale, il est possible de définir des mesures, qui sont des projections, où il n'y a qu'un valeur possible comme résultat de la mesure. Et ce cas, c'est tout ce qu'on veut. Comment définit-on une telle mesure ? Eh bien, c'est une suite de projecteurs. Et ces projecteurs décomposent notre espace. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la somme de tous les projecteurs sont en fait une transformation identité. Un projecteur au carré, c'est la même chose qu'un projecteur. Et deux projecteurs s'annulent l'un l'autre, s'ils sont différents. C'est ce qu'on appelle une décomposition orthonormale de notre espace en projecteurs. Et dans ce cas-là, une mesure par ces projecteurs-là va me dire I, avec probabilité la norme de la projection par le IM projecteur, et le résultat sera projeté, et là, il faut lire I et pas X, excusez-moi. Alors, l'exemple qu'on va utiliser pour notre cas du jeu CSHH, au fond, il n'y a que deux valeurs qui nous intéressent, 0 1. Donc, c'est une mesure partielle à deux sorties, et donc j'aurai un P0 et un P1. Okay. Alors, c'est parti. Donc, notre scénario, je partage un certain état qui est n'importe quoi. Ce n'est pas une paire EPR, n'importe quoi. Alice fait une mesure et Bob fait une mesure. La mesure dépend de x, y, mais c'est une mesure qui me donne soit 0, soit 1. Donc cette mesure sur Alice est définie par deux projecteurs. Je note P0, P1 et en haut, je mets x pour dire qu'elle dépend du bit que j'ai reçu. Donc pareil pour Bob et je mets Q, 0, 1, x, y. Alors, comme la somme des deux projecteurs à x fixé égale l'identité, ce qui est intéressant, c'est de regarder la différence de deux projecteurs. Et donc, je vais appeler Px la différence des deux projecteurs, celui qui donne 0, celui qui donne 1. Okay. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut exprimer les projecteurs de départ uniquement en fonction de la différence. Et ça, ça va être très agréable. Donc soit c'est l'identité plus cette différence, soit l'identité moins cette différence divisée par 2. Et de même, bien sûr, pour Q. Alors, quelle est la distribution des résultats ? Cette notation veut dire quelle est la probabilité d'avoir en sortie AB étant donné que j'ai en entrée XY. Alors, les XY, ici, sont fixés. Alors, en utilisant le transparent précédent, hein, la probabilité, c'était la norme de la projection, soit les produits scalaires entre l'état projeté et l'état du départ. Et donc, mes projecteurs sont définis ici. Okay. Et ça, c'est mon état que je partage, psi. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup d'articles. Donc, on part d'ici, et maintenant, on va commencer à substituer avec les définitions. Et je fais intervenir le fait que... excusez-moi, comme j'ai des bugs sur mon transparent, il faut que je commence à les corriger. Donc là, c'est QY. Donc, je remplace mes P en fonction des expressions au-dessus. Et donc, c'est identité plus ou moins PX et identité plus ou moins QY. Alors là, j'ai étudié la notation, c'est que le plus ou moins dépend de la valeur de A et de B. Si A égale 0, c'est un plus. Si A égale 1, c'est un moins. OK. Donc, au final, alors, j'ai divisé par 4 hein, parce que j'ai des facteurs 2. Au final, quelle est la probabilité de gain ? Alors là, c'est une expression qui commence à ressembler aux inégalités de Bell, comme on a l'habitude de les voir en physique. Eh bien, la probabilité de gain, c'est la probabilité d'avoir 0, 0 lorsque en entrée j'ai 0, 0 ou 1, 1 parce qu'il faut que les sorties soient égales. Pareil, si j'ai 0, 1 en entrée, alors en sortie, je vais avoir 0, 0 ou 1, 1, et je continue. Et il y a juste là que c'est différent, parce que si j'ai en entrée, j'ai 1, 1, ça doit être différent. J'ai 0, 1 et 1, 0. Okay, donc là, on a l'impression d'être un peu mal parti. Mais bien sûr, tout se simplifie. Tout se simplifie. Par exemple, regardons cette somme-là. Alors, en utilisant ce qui est écrit là-haut, donc P0, 0 de XY, qu'est-ce que c'est ? Comment là j'ai 0, 0, ça va faire mon état psi fois identité plus px fois identité plus qy. Ça, c'est cette partie-là. Et là, j'ai la même chose avec un signe moins. Et donc, quand je développe, ce qui va se passer, c'est que tous les produits croisés vont disparaître. Donc, va me rester que identité fois identité et px fois qy. Alors, identité fois identité, donc pris en sandwich entre psi et psi, comme le psi de norme 1, ça va me faire 1. Et donc, je me retrouve avec cette somme, au fond, pas si affreuse, qui correspond à la première ligne, donc, qui est donc la probabilité de gagner lorsque j'ai en entrée xy. Non, la probabilité d'avoir en sortie 0, 0 ou 1, 1 lorsque en entrée j'ai xy. Alors bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est lorsque xy n'est pas égal à 1, 1. Donc il va être important pour moi ce dernier terme. Et ce dernier terme, bah, le même phénomène se produit, mais la distribution des signes est différente. Je vais avoir un plus et un moins ici, et un moins et un plus ici. Donc on développe et on a ce terme. Maintenant, il suffit de tout sommer. Alors, de tout sommer selon les valeurs de x, y. Et j'obtiens ceci. La probabilité de gain, donc ça va être simplement un 1,5. Alors, c'est intéressant, le 1,5, c'est comme si on était complètement aléatoire et on va essayer de partir le plus possible de 1,5. Plus, et là, j'ai écrit la somme de toutes les combinaisons que je vais donc avoir. Hein. Donc, ce sont ces termes-là lorsque x, y ne sont pas à 1. Et ce terme-là, lorsque xy est égal à 1. Alors, regardons ce terme. Alors, il est possible de montrer que cet opérateur a une norme 1. Donc là, j'ai 4 opérateurs. Donc, ils ont ensemble une norme au plus 4. Divisé par 8, ça fait 1,5. 1,5 plus 1,5, ça fait 1. C'est pas bon. Donc, il faut faire un peu plus. Et là, il faut quand même utiliser le fait qu'on est sur un espace euclidien ou de Hilbert. Et quand on veut calculer une norme de quelque chose, c'est bien le mettre au carré. Donc, mettons cet opérateur au carré. Alors, cet opérateur au carré, on va regarder un petit peu. Donc, ce que j'ai dit, hein, c'est qu'au fond, cette différence d'opérateur était de norme 1. Bah, pourquoi ? Parce qu'il y a une différence de deux projecteurs orthogonales. Donc, simplement, faire le calcul... au carré, c'est égal à l'identité. Et donc, si je prends ce terme et que je le mets au carré, alors je le fais astucieusement, j'ai mis en facteur ce qu'il y avait en commun, P0 ici et P1 là. Il va y avoir beaucoup de simplifications qui vont apparaître. Donc, à chaque fois que je vais avoir un P0 carré, je vais pouvoir le remplacer par l'identité. Et donc, c'est ce que j'ai obtenu ici. Donc là, on voit, un peu P0 au carré est ici, ici aussi. Et après, de ce côté-là, donc, j'ai distribué. Alors, il ne faut pas oublier que les opérateurs ne commutent pas. Hein. La différence ne commute pas avec la somme, par exemple. Bon, après, il faut aller un peu plus loin, il faut encore développer les termes ici. Et donc, encore une fois, on voit des termes identité qui apparaissent. Et on regroupe les termes et on tombe sur cette somme. Donc, c'est assez direct. Donc, je ne vais pas passer du temps sur ça. Mais là, nous sommes beaucoup plus contents parce qu'on est parti d'une somme avec beaucoup de termes. J'en ai toujours un certain nombre, mais j'ai pris ma norme au carré. Donc, je vais pouvoir faire une racine carrée derrière. Donc ici, j'ai un terme qui vaut 4. Là, j'ai un opérateur qui est de norme au plus 1. Ici, de norme au plus 1. Donc ensemble, ils sont de norme au plus 2. Ici, c'est de norme aussi au plus 2. 2 fois 2, 4. Donc au total, j'ai 8. Donc au final, cette quantité-là, cet opérateur qui était au milieu, a une norme au plus racine de 8. Donc ce nombre est au plus 1,5 plus racine de 8 sur 8. Donc, je voulais faire le calcul jusqu'au bout. On voit quel genre de mathématiques on utilise. Pas très difficile, un peu technique, donc c'est pas forcément agréable comme calcul. Mais au fond, c'est des calculs assez standards hein, quand on manipule des opérateurs d'espace de Hilbert. Et donc ça termine du coup ce cours. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin sur les corrélations quantiques et les corrélations non quantiques mais non communicantes, donc je recommande ces notes de cours de Richard Cleave, qui sont vraiment très très bien faites. Pour tout ce qui est cryptographie quantique que j'ai présenté, donc mise en gage de bits, tirage à pile ou face et autres, et donc qui sont au-delà de la distribution de clés, hein, je recommande la thèse très bien rédigée et qui contient de très beaux résultats d'André Chailloux. Et donc pour l'aspect certification et certification d'ALEA, entre autres, je recommande le séminaire du cours qui suit. Merci.